C'est une grâce inexprimable qui nous a été accordée de pouvoir croire, de croire comme le dit les Écritures, et par cela être déclaré juste devant Dieu. Nous avons pris part à ce que Frère Schmitt et sa famille ont vécu sept jours avec eux, avec lui et avec eux. Nous sommes réjouis de ce qu'ils pouvaient se revoir. Vous savez, quand on est séparé par un système et encore séparé par une telle distance, c'est pas bien. En 1960, le frère Paul Schmitt et sa famille vinrent en Allemagne fédérale. Autrefois, c'était sûrement un grand miracle. N'est-ce pas? Nous le savons et nous pouvons nous rappeler très bien de ce temps. Et jeudi soir, nous avons brièvement parlé des débuts. N'est-ce pas? Il y a des hommes sur terre qui sont déterminés à cela, à croire la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Je sais, le frère Schmitt ne m'en voudra pas. Nous avions eu plusieurs entretiens vraiment très durs au commencement, au début. Il s'agissait de certains thèmes des Saintes Écritures qui, par des credos qui existaient chez moi et qui étaient encore chez lui, mais il y a une chose que je dois dire. Il n'a jamais contredit la parole de Dieu. Nous nous sommes soumis à la parole de Dieu et nous avons donné raison à Dieu. Et c'est ainsi que nous avons mis notre propre volonté de côté pour que la volonté de Dieu puisse avoir lieu, puisse être faite. Et quand je pense à la situation en Russie, les croyants, ça n'a pas d'importance d'où ils viennent. Ce sont encore des hommes. Ils sont restés des hommes qui respectent les lois humaines. Vous savez, il y a des croyants qui sont vraiment pires que les incroyants. Ils peuvent être pires que les incroyants. Je l'ai vécu à Moscou, dans le même bâtiment où ils se réunissent. Les adventistes, tel jour, telle heure, ont leur réunion. Les baptistes, dans le même bâtiment, tel jour, à telle heure, et parfois même le même jour. Les groupes russes, les groupes allemands, différents groupes religieux, mais malgré tout, tous, n'est-ce pas, invoquent le même Dieu. Les circonstances extérieures ont porté du bon fruit et ont fait en sorte que les croyants s'estiment et s'aiment et laissent les autres tels qu'ils sont. Nous, le frère Rousse l'a déjà dit, nous souhaiterons à nos deux frères de tout notre cœur, nous souhaitons à nos deux frères de tout notre cœur les riches bénédictions de Dieu pour leur retour, leur voyage de retour et aussi pour leur famille et aussi aux églises de là-bas. Ils m'ont invité à venir en Russie et le frère me disait, dans une église, il y a 1500 gens et donc autant sont croyants partout. Partout où on va, c'est seulement dans les pays occidentaux que tout est si sursaturé et par la prospérité qui est une nature terrestre. Ils sont sortis de la prospérité spirituelle et la foi de ces pays appelés chrétiens est malheureuse. Et à plaindre, c'est plutôt de la superstition, de l'incrédulité, de la tradition que de la foi. Et ainsi que Dieu puisse nous accorder sa grâce à tous, que nous puissions le servir, nous mettre à sa disposition et faire ce qui est juste devant Dieu, devant lui. Alors que l'un des frères me disait que le temps pour se dire au revoir est arrivé, je pensais que bientôt le jour glorieux, le matin glorieux apparaîtra où ce sera un revoir glorieux avec tous les rachetés. Et mon frère Helmut me disait il n'y a pas longtemps encore, il disait, je désire voir ce jour où je verrai notre Père, ou je reverrai notre Père. Et moi aussi, oui, j'aimerais le revoir et beaucoup d'autres encore. Et nous allons les revoir. Et alors, il n'y aura plus de séparation. Alors nous resterons pour toujours, éternellement et toujours ensemble. Là-bas, il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de cris, il n'y aura pas de souffrance. Tout cela n'existera plus. Aussi la mort n'existera plus. Mais avec le Seigneur, nous vivrons éternellement. Quel grand privilège, quelle grâce de croire ça, de pouvoir croire ça. Et parce que Dieu l'a dit, alors nous savons que c'est ainsi. Il n'y a pas longtemps, je crois que c'était avant-hier soir, j'avais eu un long entretien avec un gentil monsieur dans cette ville. Et il me disait, oui, mais pourquoi est-ce que la foi en Jésus-Christ est si importante pour vous? Et vous savez, comment est-ce qu'on ressent là, cet homme gentil là, pensait qu'en fait, il y a aussi Bouddha et d'autres personnages qui ont existé, qui aussi étaient des modèles. Et il pensait que cela ne suffit pas si on reconnaît Christ comme qu'on le prendrait comme modèle, le plus grand modèle. Ou bien alors, je dis, bon, je voudrais bien le prendre comme modèle, mais où reste notre salut? Notre salut n'est pas le modèle. D'abord, le salut, et ensuite le prendre comme modèle pour notre vie, après avoir été sauvé et racheté. Hein? Et c'est comme ça que nous sommes en tout reconnaissant au Seigneur de ce que nous pouvons comme ça apporter et partager avec l'humanité. Et voir, n'est-ce pas, le dessein du salut avec l'humanité tel qu'il est. Nous étions perdus et nous avions besoin du sauveur et du salut. Et le sauveur est venu. Et ça, c'est un fait lié à l'histoire du salut. Ce fait, nous le croyons et nous l'avons accepté et reçu. Aussi, les paroles qui ont déjà été lues a touché notre cœur. À tous, spécialement, l'accent a été mis sur l'armure. Nous savons qu'un soldat, une armée, une force de combat ne peut pas venir en basket et en survêtement et dire, voilà, maintenant on va au combat. Alors il y a une chose qui va commencer. Ce ne sera pas le combat, mais ce sera de s'enfuir si on viendrait habillé comme ça. Ici, il nous a été lu concernant le combat, la plus grande bataille, la bataille avec les puissances et les esprits méchants qui sont dans les airs, les mauvais esprits qui se sont rébellés contre Dieu et qui, avec Satan, ont été précipités ici. Sur terre, mais sont encore dans l'air et émettent leur influence sur les hommes. Et là, nous devons faire attention de ne pas nous tomber sous cette influence. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut le savoir si nous sommes sous cette influence? Mais pensez au bien-aimé disciple Pierre. Bon, il y en a qui disent que c'est seulement Jean qui était le bien-aimé disciple, mais Pierre était aussi très proche du Seigneur. Et justement, dans Matthieu 16, où, n'est-ce pas, cette grande révélation de Dieu lui avait été accordée. Et il a dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Et la réponse a été, n'est-ce pas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est au ciel. Et pas 10 versets plus tard, Satan déjà était entré dans Pierre et il a dit au Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus s'est tourné vers lui et a dit, laissez-moi vous lire les paroles exactement telles qu'elles sont écrites pour que vous puissiez savoir que cela est écrit aussi comme ça. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, nous n'avons pas cherché ce sujet. Nous faisons que l'observer dans la parole. Matthieu 16, verset 22. Mais il se retourna et Pierre le prit à part et se mit à lui parler en ces termes. Seigneur, que Dieu ne fasse pas cela, que jamais cela ne t'arrive. Maintenant le verset 23. Mais il se retourna et dit à Pierre, hors de ma vue, Satan, arrière de moi, tu es un piège pour moi, un scandale, car tes pensées ne sont pas tournées vers Dieu, mais vers les hommes. Elles ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ce n'étaient pas des pensées de Dieu que Pierre exprimait, mais celles de Satan. C'était la réflexion humaine, et dans cette réflexion humaine, Satan a vigoureusement mixé ses pensées. Nous devons faire attention à ce que nous disons soit les pures paroles de Dieu, pas des conseils bien intentionnés qui peuvent être inspirés par Satan, mais les pures paroles de Dieu. Et nous savons ce que le Seigneur avait dit à Pierre, n'est-ce pas? Le Fils de l'homme doit être livré et mourir et ressusciter le troisième jour. Et ensuite, Pierre a dit, Seigneur, tout le reste, mais pas ça. Souffrir et mourir, non, je ne le permettrai pas. Et qu'est-ce que c'était? Et c'était justement ça qui était planifié dans le dessein du salut de Dieu. C'était pour cette raison qu'il était venu, pour mourir pour le péché du monde, pour que par sa mort, il puisse racheter ceux qui étaient déterminés à la vie éternelle. Et Pierre, qui s'attendait à quelque chose, n'avait pas compris en ce temps le dessein de salut de Dieu. Il croyait au règne qui devait venir, comme tous les autres disciples. Mais comment est-ce que le commencement devait être fait? Ça, ce n'était pas clair pour lui. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons comment est-ce que les choses peuvent être proches l'une de l'autre. Très, très proches. La révélation par l'Esprit de Dieu. Une vraie révélation qui vient de Dieu par le Saint-Esprit. Et puis presque cinq minutes plus tard, vous pouvez voir au verset 16 ici, c'était la première chose, au verset 16, jusqu'au verset 20, et ensuite à partir du verset 21, déjà la deuxième partie. Comme proche peut être l'une de l'autre chose, oui. Parce que c'est une inspiration. Ce sont des inspirations. C'est peut-être que nous devons faire très attention. Et dans la parole qui nous a été lue d'Éphésiens 6, il s'agit donc de l'armure de Dieu, du casque du salut. Comme je disais déjà, un soldat doit être habillé et revêtu en conséquence. Imaginez-vous que, par exemple, vraiment, un club de gymnastique viendrait et dirait, nous allons maintenant à la bataille, au combat, et nous allons régler le compte. Non, ce n'est pas possible. Alors, moi, je me demande réellement, et moi-même, et nous tous, à nous tous, à quel point cela est devenu clair pour nous, à quoi ressemble l'armure de Dieu et quels sont les domaines qu'elle couvre, qu'elle protège et tout ce qui appartient à l'armure. Et de quoi est-elle constituée? Je ne veux pas entrer en détail dans ces choses, mais je suis reconnaissant à Dieu pour ses paroles. Parce que Paul dit que celui qui combat, qu'il puisse combattre selon les règles, sinon il ne sera pas couronné. Seulement les vainqueurs seront couronnés. Si nous parlons d'armure, nous repartons au temps de David, au temps de Saül, etc. Oui, jusqu'aux Philistins. Et qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'il y avait là? David, comme homme de Dieu, ne voulait pas mettre cette armure humaine de Saül, mais il avait l'armure de la foi. Il a dit à Goliath, tu viens revêtu de la tête aux pieds, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Et ça, c'était l'armure divine de David, pas terrestre, comme ça, revêtu pour une chose, de la tête aux pieds, non. Mais spirituellement, revêtu, béni par Dieu et fortifié par Dieu pour la tâche qui est devant lui. Et je pense que c'est ainsi aussi avec nous dans ces derniers jours. Nous avons besoin d'une armure entière, de l'armure de Dieu pour revenir à l'ordre missionnaire donné au commencement. Nous devons auparavant recevoir cette armure de Dieu, la même puissance. Avant cela, les choses ne pourront pas avoir lieu. Ensuite, dans Romains, dans l'épître aux Romains aussi, elle est glorieuse, comme toutes les autres aussi. Mais ici, dans peu de paroles, il y a plusieurs choses qui sont exprimées. Aussi, Paul écrit aux Galatiens que Christ a été soumis à la loi. Et vous pouvez regarder aussi dans l'évangile de Luc au chapitre 2, que même ils lui ont fait les choses selon la loi et qu'ainsi il pouvait être l'accomplissement de la loi pour que la foi puisse être manifestée. Ici dans Luc au chapitre 2, au verset 21, il est écrit: lorsque 8 jours se furent écoulés, de sorte qu'il fallut circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus, qui avait déjà été indiqué par l'ange avant sa naissance. Puis lorsque les jours prescrits par la loi de Moïse pour leur purification furent écoulés, ils montèrent avec l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur: tout premier-né mâle qui vient au monde sera considéré comme consacré au Seigneur. En même temps, ils voulaient offrir le sacrifice selon la prescription de la loi du Seigneur, c'est-à-dire une paire de tourterelles et 2 jeunes pigeons. Si un homme quelconque qui n'a pas l'Esprit de Dieu lit ici l'évangile de Luc, il pourrait vraiment prendre sa tête dans ses deux mains et s'en aller. Je vais vous lire un passage du même chapitre. Ce n'est pas tout à fait approprié à cette période de l'année, mais c'est la parole de Dieu. Luc 2, verset 9. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, verset 10, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Or, Christ, le Seigneur, était le sauveur, l'enfant qui venait de naître dans ce monde. Et il doit maintenant être présenté au Seigneur. Le Seigneur doit être consacré au Seigneur. Vous voyez? Là, c'est la fin de la sagesse de l'humanité. C'est là qu'intervient la sagesse divine. Et nous voyons ce que signifie l'Écriture. Le Seigneur a dit à mon Seigneur: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous mes ennemis ton marchepied. C'est ici que le Seigneur doit être consacré à l'Éternel, doit être présenté comme il est écrit dans la loi. Le Seigneur doit être consacré au Seigneur. Comme il est écrit, tout premier-né mâle qui vient au monde doit être consacré à l'Éternel. Il était le premier-né, d'une part, selon la chair, car Jésus avait encore 4 frères et sœurs, mais il était aussi le premier-né selon l'Esprit, pour être à l'origine de la création de Dieu, pour faire le commencement, pour être le commencement de la création de Dieu. Mais ici, il devait être placé sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, pour devenir ainsi l'accomplissement de la loi et satisfaire à toutes les exigences de la loi, afin que la foi puisse triompher et être manifestée. Il y a également une parole à ce sujet dans Romains au chapitre 9. Il est écrit ici au verset 9, Romains 9, verset 6. Je ne veux pas dire par là que la parole de la promesse de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. Et tous, parce qu'ils sont la postérité d'Abraham, ne sont pas aussi ses enfants. Mais en Isaac sera nommé ta postérité. Je veux dire ceci: ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont ainsi enfants, qui sont aussi enfants de Dieu, mais seulement les enfants de la promesse sont comptés comme descendance. La naissance terrestre, même d'une lignée bénie et élue par le divin, par Dieu, ne fait pas encore de nous un enfant de Dieu. Un enfant d'homme est un enfant d'homme et un enfant de Dieu est un enfant de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et c'est ainsi que le peuple d'Israël a dû reconnaître qu'il ne s'agissait pas d'un royaume temporaire sur terre, comme il en a existé beaucoup, mais comme il est déjà écrit dans le prophète Daniel, son royaume sera éternel et son règne n'aura pas de fin. Et dans le prophète Ésaïe, au chapitre 9, il est parlé du royaume et de la domination qui reposera sur son épaule pour l'éternité. Pour fonder ce royaume, pour l'établir, il fallait que quelque chose d'éternel vienne dans la temporalité pour faire de nous des enfants de pour faire de nous des enfants des hommes, des enfants d'hommes, des enfants de Dieu. Pour faire de nous enfants d'hommes, des enfants de Dieu. Je vais vous lire dans le prophète Ésaïe au chapitre 9, ici au verset 6, ou bien alors déjà au verset 5, il a déjà été dit « Qui est celui qui naît ? Qui est celui qui naîtra ?» Je voudrais lire le verset 6. « Sa domination sera étendue et la paix ne cessera pas sur le trône de David et pour sa royauté, l'établissant et la soutenant par la justice et l'équité. » Dès maintenant, jusque dans l'éternité, le zèle de l'Éternel des armées accomplira cela. Le royaume de Dieu est un royaume éternel. Sa royauté s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. À l'époque, les disciples n'avaient pas encore compris comment cela allait commencer et de quelle manière tout cela devait, n'est-ce pas, se dérouler selon le dessein de Dieu. Aujourd'hui, nous avons l'avantage de pouvoir regarder en arrière, d'avoir l'Ancien et le Nouveau Testament, de voir ce que Dieu a promis et de contempler en même temps la manière dont il l'a accompli. N'est-ce pas? Il l'a accompli par grâce. Il y a encore plusieurs paroles que je voudrais lire brièvement. J'ai lu le premier chapitre de Romains et je reviens sur la soirée de mercredi. Il était question, n'est-ce pas, de Saül, puis de Samuel. Et là, nous voyons que l'obéissance et la désobéissance sont en total, ont été placées en totale opposition. Et nous voyons que la désobéissance est liée à la volonté propre. Comme il est écrit dans le contexte, que la désobéissance est comme le péché de sorcellerie et que la volonté propre, la propre volonté est comme l'idolâtrie. Et nous voyons comment cela s'est révélé en Saül. Dieu lui avait donné des instructions précises, mais il a laissé libre cours à ses propres pensées et a fait ce qui lui semblait bon et non ce que Dieu avait ordonné. Et cela a suffi pour qu'il soit renversé de son règne parce que Dieu exige l'obéissance, parce qu'il veut qu'on lui témoigne du respect et de la crainte. Et il veut que ce qu'il ordonne soit réellement fait ainsi. Mais écoutez ce qui est écrit maintenant dans Romains au chapitre 11, et puis précisément au verset 27, en comparaison avec le peuple juif et l'Église des nations. Il est dit ici, « Et c'est en cela que se manifestera pour eux l'alliance que j'ai faite, quand j'aurai ôté leurs péchés. Ainsi, en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont bien-aimés de Dieu à cause des pères. C'est également un verset que l'on peut difficilement classer d'un point de vue intellectuel. Une fois rejeté, une fois élu. Donc, des choses différentes se produisent à des époques différentes, conformément au dessein du salut de notre Dieu. Les temps des païens devaient en effet être pris en compte. Et les branches naturelles devaient être coupées pour que les branches sauvages soient greffées à leur place afin de porter le même fruit. Tout cela peut être si bien lu dans Romains 9 et Romains 11. Mais qui comprend le conseil du salut de Dieu? C'est précisément après ces paroles que Paul s'exprime au verset 33, guidé par, conduit par l'Esprit de Dieu. Oh, quelle profondeur! Romains 11, verset 33 maintenant. Et quelle profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Comme ses jugements sont incompréhensibles et ses voies sont insondables. Ensuite, il est décrit au verset 34. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Ou qui lui a donné le premier quelque chose pour qu'il ait à recevoir en retour une récompense? Notre Dieu a un plan avec l'humanité, pour l'humanité. Et tout se déroule selon ce plan. Il a choisi le peuple d'Israël parmi tous les peuples. Il a déterminé pour pouvoir faire connaître son plan de salut. Il a choisi pour pouvoir faire connaître son plan de salut sur la terre, mais il a déjà fait dire par le prophète Ésaïe que son salut s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. Et il l'a confirmé une fois de plus alors qu'il marchait sur la terre en disant que l'évangile sera annoncé, sera prêché à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que Dieu a fait. Dieu peut choisir un homme comme Abraham, puis sur lui Isaac, puis Jacob, puis tout un peuple. Il peut prendre 12 tribus, mais pas seulement eux. Il les prend ensuite dans un but bien précis, comme il l'a fait par exemple avec les prophètes. Il les a choisis pour annoncer par leur intermédiaire ce qui allait arriver pour pouvoir ensuite l'accomplir et nous donner la preuve que cela s'est réellement produit ainsi. Si nous lisons l'Ancien Testament à propos du peuple d'Israël, vous savez ce que Dieu a dit en les choisissant, n'est-ce pas? Deutéronome. Vous savez ce que Dieu a dit en les choisissant. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. C'est toi que l'Éternel, ton Dieu, a choisi parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre pour qu'ils lui appartiennent. Vous savez, déjà que Dieu a dit à Israël, vous serez pour moi un peuple de rois et de sacrificateurs. Dieu a choisi un peuple. Nous ne pouvons pas demander pourquoi, ni même pourquoi ce n'était pas notre peuple que Dieu a choisi. Non, Dieu suit ses voies de la manière dont il les a établies. Lorsque nous lisons qu'il a choisi Abraham, Dieu en Chaldée, et qu'il lui a fait des promesses, nous ne devons pas regarder cela avec envie, mais nous rappeler avec joie qu'il nous a aussi choisis, qu'il nous a aussi fait des promesses. Il y a des gens qui regardent effectivement le peuple juif avec envie et qui disent, oui, pourquoi fallait-il que ce soit les Juifs? Cela n'est pas inspiré par l'Esprit. Si tu vois ce que Dieu a fait de bien à un peuple ou à des individus. Réjouis-toi. Si tu peux t'en réjouir, c'est la preuve que Dieu a aussi fait du bien en toi, qu'il t'a aussi choisi, qu'il t'a aussi fait grâce. Mais si tu te disputes avec lui et que tu dis oui, pourquoi Dieu a-t-il fait ceci et a-t-il fait cela de telle ou telle manière? Le pourquoi ne convient tout simplement pas au programme avec toi et avec Dieu. Mais l'action de grâce pour tout, comme il est écrit. Car dans Deutéronome au chapitre 5, au verset 26, il est écrit: car dans toute l'humanité, où se trouverait-il quelqu'un qui, comme nous, aurait entendu la voix du Dieu vivant parler du milieu du feu et qui pourtant serait resté en vie? Qu'est-ce que c'était? Le peuple de Dieu a entendu la voix de Dieu. Mais c'est précisément pour cette raison que Dieu les a traités si sévèrement, comme il ne l'a fait avec aucun autre peuple sur terre. Il a laissé tous les peuples suivre leur propre voie, mais il n'a pas permis à son peuple de suivre ses propres voies. Et il en est ainsi jusqu'à aujourd'hui. Il permet à toutes les églises de suivre leur propre voie. Mais il ne le permet pas à son église, à son peuple. Il attend de son peuple qu'il suive sa voie, qu'il se souvienne de sa parole dans ses voies, qu'il compte sur l'accomplissement de ses promesses. Vous serez pour moi un peuple séparé, un peuple consacré saint au Seigneur. Au Seigneur, tel est le privilège. Il laisse les peuples et on pourrait même dire, bon, les églises même suivent leur voie. Regardez, lorsque nous utilisons le mot peuple, nous le comparons à Israël, car c'est Israël que Dieu a choisi comme peuple entier. Et vous le voyez bien, il laisse tous les peuples suivre leur propre voie, mais pas le peuple d'Israël. Avec le peuple d'Israël, Dieu a un chemin historique de salut. Il lui a fait des promesses qu'il tient encore après des milliers d'années. Il ne se soucie pas de ce qui se passe ici ou là parmi les peuples. Il se soucie de ce qui se passe parmi son peuple élu. Il ne s'intéresse pas à ce que font les églises. Il ne s'intéresse qu'à ce qui se passe maintenant dans son église, conformément à sa parole, selon sa parole. C'est tout ce qui compte. Tout le reste ne compte pas. Il est écrit ici dans Deutéronome, au chapitre 4. Deutéronome, chapitre 4, et plus précisément la deuxième partie du verset 10. Rassemble-moi le peuple, je leur ferai entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le jour, tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et qu'ils les enseignent aussi à leurs enfants. Comme nous l'avons déjà souligné, Dieu avait choisi un peuple parmi tous les peuples. Il en va de même pour l'Église. Son Église sort de toutes les autres églises. Quand le Seigneur reviendra, il ne prendra pas l'une des centaines de croyances pour laisser les autres derrière lui. En ce moment, il y a 310 réunis dans le Conseil mondial des églises. Il ne prendra pas l'une de ces 310, ni même toutes. Qui va-t-il prendre? Il prendra ceux qui lui appartiennent. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Les hommes construisent des églises, bâtissent des églises, mais le Seigneur lui bâtit, il bâtit son église. Et c'est de son église qu'il s'agit maintenant, à savoir des paroles de la promesse qui lui ont été attribuées pour cette période. Dans Deutéronome, au chapitre 4 toujours, à partir du verset 27, il est écrit, l'Éternel vous dispersera alors parmi les peuples, et il ne restera qu'un petit nombre d'entre vous parmi les nations vers lesquelles l'Éternel vous conduira. Regardez dans le tableau chronologique, quand Moïse a vécu, quand est-ce qu'il a vécu et comment l'Esprit de Dieu est venu sur lui et comment il a prophétisé et ce qui allait arriver, la dispersion, et qu'il n'en resterait que quelques-uns qui seraient ensuite ramenés d'entre les peuples. Et écoutez encore ici, verset 28. Là, vous servirez des dieux faits de bois et de pierre par des mains d'hommes qui ne voient pas, n'entendent pas, ne mangent pas et ne respirent pas. Mais c'est de là que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras si tu le désires de tout ton cœur et de toute ton âme. Comme Dieu a merveilleusement déterminé les chemins avec son peuple dès le début. Et c'est précisément ces chemins qu'il a conduits. C'est dans ces chemins qu'il les a conduits. Encore une parole tirée de Deutéronome, chapitre 12, à partir du verset 4. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. Maintenant, le verset 5. Mais seulement le lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y mettre son nom et pour y faire sa demeure. Vous le chercherez et vous vous y rendrez. Si vous lisez le contexte, vous constaterez que les peuples païens offraient leurs sacrifices au gré de leurs humeurs. Et qu'il suffisait qu'un arbre tordu soit couvert d'un feuillage dense pour qu'il en fasse un lieu de sacrifice. Là où c'était un peu étrange, ils se sont mis à pratiquer l'idolâtrie. Le Seigneur a prononcé une parole sérieuse et il a dit, il ne doit pas en être ainsi pour vous. Vous ne pouvez pas adorer comme et où vous voulez, ni faire ce que vous voulez. Vous adorez là où je vous le dis, dans le lieu que je choisis, là où je mets mon nom, là où je fais ma demeure, là où je me manifeste. C'est là que vous vous réunissez et nulle part ailleurs. Vous voyez de quoi il s'agit? Non pas selon le bon vouloir, non pas comme la volonté propre voudrait le déterminer, mais comme Dieu l'a prédestiné à la déterminer à son peuple. Verset 4. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu, c'est-à-dire les païens, les peuples païens, qui adorent leurs idoles ici et là, sous un arbre au feuillage touffu ou autre, mais dans le lieu où le Seigneur, votre Dieu, choisira parmi toutes les régions de vos tribus pour y mettre son nom et y faire sa demeure. C'est ce lieu-là que vous chercherez. Et c'est là que vous vous rendrez. Nous comparons cette parole avec l'évangile de Jean, le chapitre 4. Le Seigneur parla à la femme près du puits et elle dit, adorez-vous là et ainsi de suite. Et le Seigneur a dit, femme, je te le dis, le temps est venu où l'on n'adorera plus ni sur une montagne sainte, ni à Jérusalem, mais où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un lieu. Aujourd'hui, il s'agit du lieu où Dieu peut faire connaître son nom, manifester sa parole, car sa parole est esprit et elle est vie. Si nous voulons adorer en esprit et en vérité, nous devons être nous-mêmes en esprit et être dans la vérité et être dans l'esprit de Dieu. non pas dans le mien ou bien dans le tien, mais dans l'Esprit de Dieu. Non pas dans notre bon conseil, notre volonté propre, mais selon le conseil divin, dans la volonté de Dieu. Et je pense que c'est le désir le plus profond de nos cœurs. Nous voulons adorer Dieu, et cela en esprit et en vérité. Et nous ne pouvons vraiment le faire que si ce nom qui est au-dessus de tout nom nous a été révélé. Dieu a en effet prédit beaucoup de choses, mais il ne s'est révélé personnellement sous une forme corporelle qu'en Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui a vu Moïse, a vu Moïse. Celui qui est né dans ce monde comme nous tous. Et celui qui a vu un prophète, quelconque, a vu un prophète. Mais celui qui voit notre Seigneur par révélation divine peut s'exclamer comme Thomas l'a fait. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous regardons un peu plus en profondeur. Nous ne nous arrêtons pas à l'apparence extérieure. Mais nous savons que Dieu est esprit. Et Dieu qui est esprit s'est créé un corps terrestre par l'engendrement, par l'esprit. Par la procréation, par l'esprit pour y faire sa demeure. Et c'est pourquoi il est écrit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous possédez en lui toute cette plénitude. Il n'y avait qu'un seul homme qui marchait ici-bas sous forme humaine, qui portait le nom de Dieu qui est, qui était et qui sera la parole de Dieu. Quand est-ce qu'il est écrit? Il avait écrit sur sa cuisse la parole de Dieu. Il est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il n'y avait qu'une seule révélation personnelle directe de Dieu. Et elle s'est faite en Jésus-Christ notre Seigneur. Et celui qui veut adorer Dieu, adore Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Car c'est en Christ que Dieu nous est apparu. Et si nous voulons apparaître devant Dieu, nous devons être en Christ. Et c'est en lui que le nom de Dieu s'est manifesté ici-bas. Père, glorifie ton nom. Qu'est-ce que c'était? Combien prie notre Père qui est aux cieux? Que ton nom soit sanctifié. Et puis, ils ne savent même pas de quel nom il s'agit. Il n'y a qu'un seul nom. S'il vous plaît, ne me dites pas que Dieu a encore trois noms différents, car cela me rendrait malade. Dieu n'a qu'un seul nom qui a été donné en relation avec la rédemption. Et c'est le nom de Jésus. Et c'est dans ce nom de Jésus que tout nous a été donné par Dieu. C'est là que se trouve le grand mystère des Saintes Écritures. Quand notre Seigneur a dit qu'il parlait aussi du nom sans l'avoir prononcé. Vous avez bien écouté, il a parlé du nom sans l'avoir prononcé. Lorsqu'il a donné l'ordre de mission, il a dit, allez dans le monde entier, enseignez toutes les nations, prêchez l'évangile et baptisez-les au nom. Il n'a pas prononcé le nom là-bas. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre, plein du Saint-Esprit, prononce ce nom dans lequel Dieu s'est révélé dans le Nouveau Testament comme Père, Fils et Saint-Esprit et dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Quelle glorieuse harmonie dans la parole de Dieu, non pas dans nos propres voies, non pas dans nos propres programmes, mais dans la voie de Dieu, sur la voie de Dieu, conformément à ce qu'il a dit. Si nous voulons nous tenir devant Dieu, nous ne voulons et ne devons agir et marcher qu'en fonction du lieu. Ici, il n'y a qu'un seul lieu. Et je le lis et j'insiste sur ce lieu. Ici, il est écrit, le verset 5. Deutéronome 12, mais seulement le lieu que l'Éternel votre Dieu, pas deux ou trois autres lieux. Un seul lieu et non deux ou trois. Personne ne peut nous dire, oui, il y avait d'autres grands qui ont vécu sur terre. Et à un moment, ou à un autre, les grandeurs ne m'intéressent pas du tout. Seul m'intéresse le Dieu grand et tout-puissant qui s'est manifesté sur terre sous la forme d'un serviteur pour nous libérer de l'esclavage et de la servitude, pour nous racheter, pour nous accorder le pardon des péchés par grâce et pour nous donner la nouvelle vie. C'est seulement un en qui le salut et la grâce et la rédemption parfaite est. Seulement un pour toujours, seulement un. Et Pierre a dit, il n'y a pas d'autre salut ni aucun et ni d'autre nom donné aux hommes sous le ciel par lequel ils puissent être sauvés. Et de quel nom s'agit-il? Le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Et vous savez que là aussi, il y a des gens qui jouent un double jeu avec eux-mêmes, sans le comprendre. Ils louent le nom de Jésus de leur bouche. Et lorsqu'ils doivent le reconnaître pour le baptême d'eau, ils s'y opposent. Cela ne devrait pas être le cas. Si tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, sers-le pour lui plaire. Abandonne tes propres voies, tes propres projets. Viens sur le chemin de Dieu. Abandonne tes propres pensées et accepte ce que Dieu a révélé dans sa parole. Bien plus, il n'y a qu'un seul lieu, qu'une seule rédemption, qu'un seul sauveur, Jésus-Christ, notre Seigneur. Un seul lieu sur terre où cela s'est produit, à Golgotha, cela s'est produit. Et c'est pourquoi nous chantons de temps en temps ce cœur glorieux Golgotha. Nous ne glorifions pas ainsi un lieu ou un endroit, mais nous commémorons ce qui s'y est passé, à savoir que notre Sauveur a expié à notre place, a souffert à notre place et est mort pour nous racheter. Juste un lieu. Mais nous n'adorons pas un lieu terrestre. Nous adorons celui qui s'est révélé à nous en vérité. Celui qui s'est révélé à nous en esprit. Nous l'adorons. Un autre compositeur chante, « C'est pourquoi je t'adore, mon Dieu, je t'adore. » Ici aussi, on adorait, mais pas de la manière dont Dieu le voulait, n'est-ce pas? Dans Jean 4, si nous voulons être de véritables adorateurs, nous ne nous contentons pas d'adorer, mais adorons en esprit et en vérité, pour rendre ainsi gloire à Dieu. Avant que cela puisse se produire, nous devons être conduits dans la vérité par l'Esprit. Nous devons devenir une partie de la vérité divine, née de la même semence de la parole et de l'Esprit de Dieu. Puisse le Seigneur nous aider. Résumons, récapitulons un peu. Le peuple de Dieu est destiné à suivre la voie de Dieu et à faire comme il l'a ordonné, à abandonner toute voie personnelle, mais à suivre la voie de Dieu, oui, même en marche, en marchant et en faisant comme le Seigneur l'a ordonné. Et puis, nous avons repris la première idée, la première pensée, l'armure complète de Dieu qui est accordée à ceux qui ont reçu la justification divine, qui ont été déclarés justes à Golgotha et qui par la foi le revendique personnellement pour eux et commence à remercier le Seigneur pour cela. Alors tout cela fait sens pour nous, a du sens pour nous. Ou bien cela donne du sens à ce qui a été accompli pour nous et un but pour nous. Élu, reçu grâce, destiné à être une propriété du Seigneur. Car la grâce, il y a eu des pensées aussi merveilleuses ici qui ont été exprimées. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu apparut, apportant le salut à tous les hommes. mais qui a apporté le salut, la grâce a apporté le Seigneur à tous les hommes, mais ce ne sont pas tous les hommes qui acceptent cette grâce qui leur a été apportée. Le cadeau peut être prêt, mais ce cadeau doit être accepté. Nous éduquons à renoncer à la nature d'impie et aux convoitises mondaines et à mener une vie sage, juste et pieuse déjà dans le siècle présent. Et maintenant, regardez ce qui est écrit au verset 13. Attendant ainsi notre bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Ici, il exprime qui est le Seigneur Dieu, en fait, et qui est notre Sauveur. Il continue ensuite au singulier, au verset 14, « Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » C'est ce que Tite devait annoncer, c'est ainsi qu'il devait exhorter et avertir, et cela est valable encore jusqu'à aujourd'hui. Aussi, ce qui a été encore lu, encore Tite 3, verset 8, « La parole est certaine, digne de confiance, et je veux que tu en parles avec toute la certitude, afin que ceux qui sont venus à la foi en Dieu mettent toute leur énergie à être actifs dans les bonnes œuvres. Que Dieu nous fasse également la grâce que tous cela ne soit pas une simple contemplation, une simple observation, mais qu'il puisse en être ainsi dans notre vie. Dans la parole, on nous montre ce que Dieu a préparé pour nous. Et alors naît la foi. Et dans la foi, nous acceptons alors pour nous personnellement ce que Dieu nous a préparé et montré par sa parole. Et nous le remercions de nous permettre de le vivre encore aujourd'hui par grâce. Que Dieu nous bénisse tous par grâce. Amen.